Bonjour Laurent Castaignède.
Bonjour.
Depuis hier, l'humanité a consommé toutes les ressources renouvelables que pouvait lui fournir la planète en une année. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement, le jour aussi où les écosystèmes comme les forêts ou les océans ont absorbé tout le CO2 qu'ils étaient capables d'emmagasiner. Alors l'une des principales causes de nos émissions de dioxyde de carbone, ce sont les transports. Et parmi eux, bien sûr, il y a l'avion dont on va parler ce matin en cette période de vacances. D'abord, Laurent Castaignède, pour bien comprendre de quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous brosser un rapide tableau de l'impact environnemental du transport aérien dans le monde?
Oui, tout à fait. Donc, les transports, c'est à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre, globalement. L'avion arrive troisième. En premier, ce sont les voitures. En deuxième, les camions. Et en troisième, les avions, qui représentent à peu près 20% de ces transports en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ils émettent aussi des polluants comme des oxydes d'azote et aussi des particules. L'avion aujourd'hui, c'est 8000 milliards de kilomètres passagers. Alors ça parle pas trop aux gens, mais quand on fait la division par le nombre d'humains sur Terre, ça fait à peu près 1000 kilomètres par personne. Mais évidemment, tout le monde ne prend pas de l'avion, loin de là. Il n'y a que quelques pourcents des personnes sur Terre qui prennent l'avion et qui, elles, cumulent beaucoup plus de kilomètres que cette moyenne.
Et puis la croissance du transport aérien est quasiment exponentielle aussi, hein.
Alors, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il y a bien deux choses à additionner. Il y a les émissions de CO2 qui sortent, le kérosène qui brûle, qui sortent directement des réacteurs des avions. Ça, c'est 2 à 3% des consommations énergétiques mondiales, auxquelles il faut ajouter la vapeur d'eau. En fait, les traînées blanches que l'on voit des avions dans le ciel ont un effet au moins aussi important que le CO2 qui est relargué. C'est pour ça que finalement, les avions, c'est à peu près 6% tout additionné des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et c'est une croissance de 5% par an constatée depuis plusieurs décennies et annoncée par les grands organismes de l'aérien, que ce soit les constructeurs ou les organismes énergétiques ou qui gèrent l'aviation civile. Ils annoncent pour les 30 prochaines années un quadruplement du trafic passager au prix d'un triplement de la consommation énergétique.
Alors justement, pour essayer de lutter contre cette croissance, le gouvernement français a annoncé la mise en place d'une écotaxe sur les billets d'avion à l'horizon 2020 qui pourrait augmenter le prix du billet par passager d'1,50€ à 18€ pour les longs courriers. C'est un peu comme si on disait à un automobiliste qu'il allait payer 10 ou 15 centimes de plus sur son plein d'essence. Vu comme ça, ça paraît un peu inconséquent, non, comme mesure?
Oui, tout à fait. En fait, quelques euros sur le prix du billet, c'est pas ça qui va véritablement changer le comportement des gens. Mais en face de ça, le transport aérien a fait une énorme levée de bouclier parce que pour eux, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Alors, cette boîte de Pandore, c'était en fait lié au fait que le transport aérien, notamment le kérosène, est hors taxe au niveau international depuis la fin des années 40. En fait, à l'époque, on est sorti du second conflit mondial, on voulait arrêter de se faire la guerre tous les 30 ans, et l'une des conditions, ça a été de se dire que les grands de ce monde devaient se rencontrer très facilement, et pour cela, prendre l'avion le moins cher possible. Donc, c'est une très bonne décision, en 1951, que d'avoir détaxé le kérosène. Sauf que depuis 1950, aujourd'hui, le trafic passager a été multiplié par 250. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions, et à l'époque, c'était les dirigeants, les déplacés. Mais aujourd'hui, à peu près 80% du trafic mondial d'avions, ce n'est que du tourisme, en fait. Du tourisme, aller voir ses amis, éventuellement des pèlerinages donc religieux. Mais tout ça cumulé, c'est ça qui fait aujourd'hui le plus gros du trafic passager au niveau mondial. Donc on n'est plus du tout dans les conditions qui avaient été requises pour détaxer le carburant aérien, mais qu'il est toujours aujourd'hui. On paie hors taxe son kérosène, alors qu'en France, par exemple, l'essence, elle est vendue le double du prix hors taxe dans les stations-service.
Et vous parliez justement des touristes, hein, 80% de touristes qui prennent l'avion. Et la France est d'ailleurs la destination touristique la plus visitée. 90 millions de touristes en 2018, dont beaucoup sont arrivés par avion. Selon vous, est-ce qu'il faudrait limiter, réguler ce flux de visiteurs au détriment finalement de notre économie pour sauver la planète?
Oui, tout à fait. Donc c'est 80% des passagers en avion qui sont des touristes. Pardon, 80% des touristes ne prennent pas l'avion, ils prennent beaucoup la voiture. Non, effectivement, en France, on a fait un peu la schizophrénie parce que à Paris, par exemple, d'un côté, on a signé l'accord de Paris espérant que on va limiter le climat à moins de 2 degrés, mais de notre côté, on a un projet d'extension de l'aéroport de Roissy qui est énorme, qui va faire venir encore plus de passagers de très loin pour visiter juste Paris. Donc en fait, Paris est complètement dans la contradiction aujourd'hui, d'un côté voulant faire des efforts pour que tout le monde fasse des efforts pour limiter le réchauffement climatique, et de notre côté n'arrive pas du tout à endiguer la croissance du trafic aérien à ses portes pour ses propres visiteurs.
Il y a aussi pour les pays émergents, on a parlé de la France, l'avion pour ces pays émergents, notamment en Afrique, c'est un fabuleux moteur de développement économique. On ne compte plus les agrandissements ou les constructions de nouveaux aéroports comme Blaise Diagne à Dakar, pour n'en citer qu'un. Vous êtes en train de nous dire finalement qu'en voulant se doter d'aéroports internationaux comme l'ont fait les Occidentaux, les pays émergents font fausse route quelque part ?
C'est-à-dire c'est nous tous ensemble qui faisons fausse route. C'est en fait le problème. C'est-à-dire individuellement, la décision individuelle d'une grande métropole, par exemple, elle, du point de vue économique, bon, sachant que le point de vue économique est biaisé parce que le carburant est hors taxe, donc il n'y a pas du tout intégré des pollutions qui sont payées par ailleurs. Mais indépendamment de ça, le raisonnement individuel, on va dire, pousse effectivement à se dire si j'ai des aéroports, je vais avoir plus de commerce, donc ça va être positif pour moi. L'ennui, c'est que ce positif, éventuellement, pour chacun qui fait son calcul, ce qui est étonnant, c'est que la somme est négative. C'est-à-dire que globalement, si tout le monde fait ça, c'est que l'on fait depuis des années, mais pas que sur le transport aérien, la somme de tout ça est en fait un énorme problème. Donc c'est pour ça que c'est finalement au niveau, il faut tous ensemble, hein, pays émergents comme pays occidentaux, qu'on voit la réalité en face, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a trop d'avions. Il n'y a pas que ce problème d'avions, il y a aussi trop de voitures, vous allez me dire, mais trop de consommation de viande, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, on est face à une planète qui a une taille finie et on a déjà dépassé, comme vous l'avez dit, les limites de la taille de notre planète. En fait, si la planète était 10 fois plus grande, on n'aurait pas ces problèmes-là. Si on était 10 fois moins nombreux, on n'aurait pas ces problèmes-là non plus. Aujourd'hui, il y a l'équation qui ne tourne plus entre la capacité d'absorption de nos nuisances par la planète et les émissions.
Et alors justement, rapidement, quels sont les moyens, les mesures, selon vous, qu'il faudrait mettre en place à l'échelle mondiale pour limiter l'impact environnemental de l'avion ?
Alors sur le trafic aérien, il y en aurait trois groupes de mesures. Une, c'est évidemment la taxation, comme on a dit, du kérosène, mais vraiment à un niveau à minima celui de l'essence d'aujourd'hui, mais à mon avis davantage que cela. Ensuite, il faudrait limiter la vitesse des avions. Aujourd'hui, les voitures, par exemple, il y a des panneaux de limitation sur les routes. Ils pourraient très bien avoir dans les airs pour les avions, pour pouvoir les faire ralentir, quitte à perdre quelques minutes sur des trajets. Ça permettrait de baisser leur consommation. Et ensuite, il faudrait plafonner leur nombre. C'est-à-dire aujourd'hui, arrêter de toujours vendre davantage d'avions qui vont augmenter le parc mondial. Donc, il faudrait stabiliser le parc mondial. Voilà les trois mesures. Taxation, limitation des vitesses, stabilisation du parc mondial.
Et pour stabiliser le parc mondial, ça veut dire par exemple instaurer des quotas comme ça se fait à Paris avec les taxis. Si on veut prendre un taxi, il faut qu'il y en ait un qui parte à la retraite, qui vende sa licence.
Exactement, exactement. C'est exactement comme dans le foncier. Quand vous achetez un logement, vous n'avez pas le droit de vous installer là où vous voulez. Vous devez passer chez un notaire, acheter un rectangle entre guillemets sur un cadastre et pour pouvoir dire mais ça c'est à moi. Voilà, et ça a de la valeur, c'est contingenté. Et c'est géré. Donc en fait, il faudrait juste faire une liste par catégorie d'avions en nombre de places, par exemple au niveau mondial. Et une compagnie qui voudrait, qui en a peut-être un certain nombre, qui voudrait en acheter 10 de plus, si elle met 10 de ses vieux avions à la poubelle, c'est de la même capacité, c'est très bien. Par contre, si elle veut étendre son parc de 10, il faut qu'elle achète à une autre compagnie qui a fait faillite ou qui veut s'en séparer le 10 droit d'avoir ce genre d'avion. Comme ça, on aura un parc mondial stabilisé.
Merci beaucoup Laurent Castagnède d'avoir répondu à nos questions ce matin.